non-lieu de mémoire.
C'est pas simple d'écrire une chaîne. Et c'est triste, c'est triste.
Là, je mettrais plus les pieds dans le ton, là.
Pas de raison aujourd'hui.
J'ai du mal à toucher Dominique Lechon. Ça me fait mal au nez. Ça aussi, c'est la chaîne de...
Parce que ces trois personnes qui m'ont convoqué à 4h15, comme je vous ai dit le matin, m'ont froidement dit que c'était fini et puis que j'avais plus besoin de moi.
Mon lieu de mémoire.
Je rentre à la maison, j'ai réveillé mon mari qui était là. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Et puis je suis redescendue, puis j'ai fait le ménage. J'ai fait les enfants. Et puis tout d'un coup, je me suis arrêtée, puis je me suis mise à pleurer. Voilà.
Ainsi, malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune lumière, travaillant actuellement dans l'horlogerie genevoise, qui accepte de témoigner.
Et puis bon, ben, de temps en temps, ben, si je veux me payer quelque chose, un petit supplément, ben, je bosse le soir. Je rebosse après le boulot de l'usine.
Je suis trop fatiguée le soir. J'ai une immense fatigue intérieure. J'ai même pas le courage. Le matin, des fois, je me lève, je me dis, oh, ben mince, il faut retourner au boulot. Je suis déjà fatiguée avant de sortir du lit. J'arrive pas à me reposer complètement.
Je suis au montage de collant. Je suis assise dans la machine. Puis à ma gauche, chez les collants, c'est déjà fait. C'est la jambe. C'est une jambe et l'autre jambe. Fait.
Moi maintenant, je ne peux plus y aller. J'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté. C'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet.
Non lieu de mémoire. Nous écrivons ces lignes sous le coup d'une émotion intense. Quand nous pénétrons dans l'usine à gaz, un terrifiant spectacle s'offre à notre vue. Le nouveau gazomètre a sauté. La chambre des compteurs n'est plus qu'un amas de décombres. Des blessés gémissent.
Journal de Genève, 24 août 1909.
Le gaz qui s'échappe des conduites éventrées vous prend à la gorge. On aperçoit, se balançant à l'extrémité d'un tuyau, une pauvre loque humaine, méconnaissable, un pauvre corps gonflé comme une baudruche. C'est le cadavre d'un ouvrier. Nous passions à proximité de l'usine lorsque la formidable détonation se produisit. Décrire l'affolement général de la foule accourue dès les premiers moments de la catastrophe nous est totalement impossible. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde terrifié se sauvait à toutes jambes, craignant une nouvelle explosion. À deux pas de nous, une jeune ouvrière sort de son atelier et court à la pharmacie pour se faire panser une blessure à la tête, occasionnée par le bris d'une glace. À 2 kilomètres à la ronde, toutes les vitres des habitations sont brisées. Fort heureusement, la plupart des ouvriers de l'usine ont pu fuir à temps. On recherche encore, sous les décombres, les restes des ouvriers manquant à l'appel.
Une usine à gaz avait été implantée en 1845 sur un terrain de la Clouvrenière qui se trouvait alors en pleine zone maraîchère. Il s'agissait de produire du gaz en distillant de la houille, ce qui permet simultanément de produire du coke et d'assurer l'éclairage de la ville et des possibilités de chauffage. Le gaz de ville produit était stocké dans des grands gazomètres. L'usine à gaz genevoise avait été considérablement modifiée et agrandie à la fin du XIXe siècle, et le développement urbain l'avait rattrapée, elle se trouvait désormais en pleine zone habitée. Le 24 août 1909, une énorme explosion a lieu, elle dévaste une partie du quartier et une grande partie de l'usine. Au moment de décrire le fonctionnement de l'usine, le jour suivant l'explosion, le journal de Genève donne dans le fantasme d'une usine sans ouvriers, où tout serait fait automatiquement.
L'usine de la Clouvrenière a été achevée en avril 1898. Beaucoup plus vaste que l'ancienne, qui, pendant tant d'années, a éclairé seule la ville de Genève et sa vaste banlieue, elle a été établie avec tous les derniers perfectionnements. Le classique tombereau, qui déversait jusque-là la houille dans la cour de l'usine, a fait place au truck transporteur de la voie étroite. Une voie ferrée pénètre ainsi du boulevard de Saint-Georges dans l'usine, les wagons sont déchargés dans un vaste entonnoir, d'où un couloir à va-et-vient conduit la houille à un concasseur. Là, une chaîne à godets s'élève dans un autre couloir, dans laquelle une vis sans fin la transporte dans un vaste entrepôt où elle s'entasse automatiquement. Lorsqu'on veut charger les fours, la houille est transportée au-dessus de ceux-ci par le même système. Elle tombe dans des chargeurs suspendus au moyen desquels on garnit les fours avec la plus grande facilité. Quant au coke, Il est lui aussi enlevé par les moyens mécaniques et trié automatiquement dans un bâtiment spécial sous lequel viennent se ranger wagons de chemin de fer et tombereaux dans lesquels des rouloirs déversent le coke.
L'explosion du 24 août 1909 fait 13 morts et une douzaine de blessés graves. En dépit de sa violence, il ne faudra que 17 jours pour remettre l'usine en fonctionnement. Le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que l'agglomération genevoise n'est plus éclairée. On installe des falots dans les rues, mais l'obscurité éveille la crainte.
Les Apaches ont profité de l'obscurité causée par l'explosion de l'usine à gaz pour se livrer à leurs exploits. Lundi soir, vers 10h30, M. Théophile Dufresne, député et maire d'Hermance, passait au boulevard Helvétique. Lorsqu'arrivé sous le pont de Saint-Victor, il fut brusquement attaqué par 3 individus.
Il aura donc suffi de 17 jours pour remettre en fonction l'alimentation du gaz et l'éclairage de ville. 17 jours aussi pour oublier les 13 morts et les 20 blessés. Au contraire de la fusillade du 9 novembre 1932, au contenu politique beaucoup plus évident, l'explosion de l'usine à gaz de 1909 n'a jamais fait l'objet ni de commémoration ni d'études historiques.
Alors le labyrinthe, allégé du Minotaure, prit cette forme achevée du silence désignée par l'oubli. Non moins perdus donc étaient ceux que les songes de Minos, concurremment allégés, dirigeaient vers la fatale porte, tant qu'à la fin, le peuple entier disparut. Mais le peuple entier se trouvant dans le labyrinthe, le silence redoubla le silence, l'oubli redoubla l'oubli, et nature fut donnée à l'inextricable. On demandera comment Craton, qui était crétois, put signifier ce qu'il avait oublié lui-même. Et ce seul fait de parler le silence expliquerait qu'on ne l'ait pas entendu. Mais outre cela, il était machiné par le lieu d'où il parlait. En d'autres termes, sa propre parole était inextricable.
La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet,